Enfant, j'ai lu beaucoup de livres qui étaient destinés aux jeunes et je me souviens encore de celui qui m'a le plus marqué. Je crois qu'il s'appelle « Le tigre mangeur d'hommes ». Si je me souviens bien, ce récit véridique s'est passé en Inde. Le livre m'est revenu à l'esprit le jour où j'ai lu l'histoire, tout aussi vraie, du prophète Daniel qui se retrouve dans une fosse pleine de lions affamés. Daniel est à la fois le héros et l'auteur du livre qui porte son nom. La première moitié du livre raconte son histoire personnelle et la seconde moitié, les visions et révélations qu'il a reçues. Et il parle souvent à la première personne. Né dans une famille noble du royaume de Juda, Daniel est adolescent lorsqu'en 605 avant Jésus-Christ, il est déporté à Babylone par Nabucodonosor. Ce roi vient de remporter une grande victoire à Carchemish sur les armées égyptiennes. Alors dans la foulée, il décide d'attaquer le roi de Juda, Joachim, qui est allié aux Égyptiens. Il fait le siège de Jérusalem, mais ne la détruit pas. Par contre, il déporte plusieurs milliers d'habitants, dont la crème, les aristocrates. Cette première invasion est suivie de deux autres. C'est donc suite à la première attaque de Juda que Nabucodonosor, que Daniel et ses trois amis mentionnés dans le livre, prennent le chemin de l'exil. Comme ces jeunes gens sont destinés à exercer de hautes fonctions dans leur pays, aux yeux du roi de Babylone, ils représentent un personnel qualifié pour l'administration des lointaines provinces de son empire. Rusé, cette politique permet aussi à Nabucodonosor de compter sur la loyauté de ses fonctionnaires. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à prendre parti pour la population dont ils ont la charge puisqu'elles leur sont totalement étrangères. Arrivé à Babylone, Daniel et ses trois amis suivent une formation qui les prépare à leur haute fonction. Ils manifestent alors le désir de servir l'Empire, mais aussi la volonté de demeurer fidèles à l'Éternel. Ils se font remarquer par leurs facultés exceptionnelles et entrent au service personnel du roi. Ensuite, les révélations accordées par Dieu à Daniel lui valent de devenir gouverneur de la province de Babylone. Daniel est un homme d'une intégrité et d'une fidélité à Dieu exemplaire. Le prophète Ézéchiel parle de lui comme un homme juste et sage. Et dans le Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit de lui que, par la foi, il ferma la gueule des lions. Daniel est aussi un homme de prière. Même sous menace de mort, ce qui d'ailleurs lui vaut d'atterrir dans cette fameuse fosse aux lions. Comme l'histoire des grandes puissances du Moyen-Orient occupe une très grande place dans le livre de Daniel, il faut prendre note de ce qui s'y passe. Au début du récit, c'est Nabucodonosor, le grand patron. Il est succédé par son fils qui est assassiné par un beau-frère, qui usurpe le pouvoir mais meurt après 4 ans de règne. Son fils le remplace. Et après quelques mois de règne, il est assassiné par les grands de la cour qui choisissent l'un d'entre eux, capable de s'opposer à la puissance grandissante des Mèdes et des Perses. Effectivement, ce dernier fait renforcer les murs de Babylone sur les deux rives de l'Euphrate qui traversent la ville, afin de prévenir toute mauvaise surprise. Mais comme le nouveau roi Nabonide passe le plus clair de son temps hors de Babylone, c'est son fils, Balthazar, qui gouverne. Pendant ce temps, Cyrus, roi de Perse et vassal des Mèdes, se révolte avec succès contre son suzerain, dont il prend la place, et ses prises de pouvoir me font penser à la bande dessinée où le grand vizir veut être calife à la place du calife. Bref, fort de ses premiers succès, Cyrus lorgne en direction de la Libye, la partie occidentale de l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Il s'en empare et se débarrasse de son roi, le célèbre richissime Crésus. Comme quoi, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Ensuite, Cyrus envahit ce qui est aujourd'hui l'Irak, puis la Syrie, deux territoires qui sont pourtant sous contrôle babylonien. Sentant le vent tourner en sa faveur, il poursuit ses conquêtes et défait les armées de Babylone. Puis, son général s'empare de Babylone en pleine nuit et sans rencontrer de résistance. Il faut croire que tout le monde dormait. C'est ainsi que Babylone tombe comme un fruit mûr dans la gibecière perse. Maintenant, c'est Cyrus, le nouveau grand patron de la région, et il se fait appeler roi des pays, c'est-à-dire empereur, mais ne prendra le titre de roi de Babylone que 14 mois après la chute de cette dernière. Entre-temps, Cyrus installe sur le trône de Babylone un roi vassal que le livre de Daniel nomme Darius le Mède, et qui semble être le même personnage que le général qui a pris la ville et qui, on le sait, mourut exactement 1 an et 3 semaines après la prise de Babylone. Dans la nuit qui précède la chute de Babylone, le roi Balthazar festoie en compagnie de ses grands quand une inscription mystérieuse apparaît sur le mur de la salle. Daniel est appelé en toute hâte et il interprète ces quelques mots qui annoncent la fin de l'Empire babylonien. Après la prise de la ville, Daniel est à nouveau nommé à de hautes fonctions ministérielles par Darius le Mède, vassal de Cyrus. C'est durant cette période que Daniel, s'identifiant à son peuple, fait une très longue prière de repentance et reçoit la prophétie des 70 septaines. Environ le quart des textes sacrés se compose de prophéties dont une grande partie s'est déjà accomplie. Celles qui sont dans le livre de Daniel sont passionnantes parce qu'elles concernent le monde entier et pas seulement le peuple juif. Ainsi, Daniel est amené à interpréter un songe de Nabucodonosor qui a pour sujet une statue faite de 4 métaux juxtaposés de la tête aux pieds et qui sont de valeur décroissante. Une tête d'or, un buste d'argent, un ventre de bronze et des jambes de fer. Puis, dans une vision parallèle, Daniel voit se succéder 4 animaux. Un lion, un ours, un léopard à 4 têtes et une bête terrible. Ces 2 visions expriment la même vue panoramique de l'histoire. Les 4 métaux et les 4 animaux représentent 4 empires qui se succèdent. Le premier, symbolisé par la tête d'or et le lion, c'est l'Empire babylonien. Le second, symbolisé par le buste d'argent et l'ours, est l'Empire perse. Il a duré 2 siècles, mais sous Darius III, ses armées sont vaincues par les Grecs, menées par Alexandre le Grand, devenu le patron du Moyen-Orient. Il poursuit ses conquêtes, s'empare de l'Égypte, de Babylone, et défait une seconde fois les Perses. Il va jusqu'en Inde, mais l'épuisement de ses troupes l'oblige à revenir en Perse, où il meurt subitement à l'âge de 33 ans. Selon l'historien juif Flavius Joseph, auteur de l'histoire en 20 volumes du peuple juif, quand Alexandre le Grand, à la tête de ses armées, descendait sur Jérusalem, le grand prêtre du temple de l'Éternel sortit à sa rencontre avec une copie du livre de Daniel et lui montra que son empire était représenté par le ventre de bronze et le léopard. Convaincu, Alexandre entra respectueusement dans Jérusalem avant de poursuivre sa route et conquérir l'Égypte. Après sa mort, ses 4 généraux se partagent son empire et établissent 4 royaumes que symbolisent les 4 têtes de léopard. 2 d'entre eux, l'Égypte et la Syrie, sont constamment en guerre, chacun cherchant à s'emparer de l'autre. Ils se disputent aussi la Palestine, qui est d'abord contrôlée par l'Égypte, puis par la Syrie. À partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, commence une période douloureuse pour le peuple juif, car ils sont sous la botte d'un tyran assoiffé de sang appelé Antiochus IV, Épiphane, qui apparaît dans l'une des prophéties de Daniel. Ce triste personnage se mêle des affaires religieuses juives et déporte le grand prêtre légitime, qui est ensuite assassiné, ce qui entraîne la révolte du peuple. Antiochus ravage alors Jérusalem, puis il persécute les Juifs. Il introduit un autel dédié au dieu grec Zeus dans le temple de Jérusalem et offre un sacrifice païen sur l'autel des holocaustes, ce qui constitue pour les Juifs la profanation abominable, aussi appelée l'abomination de la profanation dont parle Daniel. Le temple est encore profané par des sacrifices d'animaux impurs et des actes de débauche. La circoncision et l'observation du sabbat sont interdites, et sous peine de mort, les Juifs sont forcés d'offrir des sacrifices aux idoles et de manger du porc. Daniel fait allusion à ces événements. Suite à ces persécutions, la famille sacerdotale des Maccabées se soulève, entreprend une lutte armée style guérilla et réussit progressivement à repousser les forces syriennes. À la mi-décembre de l'an 164, Judas Maccabée purifie le temple et le rend au culte de l'Éternel. Les Juifs sont à nouveau indépendants, mais cette liberté ne dure qu'un siècle. Nous en sommes toujours au troisième empire représenté par le léopard et le bronze de la statue, alors que Daniel a prédit que la domination grecque et des quatre généraux qui en ont découlé seraient surplantés par un quatrième empire symbolisé par le fer et la bête terrible. Il s'agit de Rome qui conquiert le Moyen-Orient et en 63 avant Jésus-Christ, ses légions conduites par Pompée investissent Jérusalem et placent Juda sous leur domination. Pendant le siècle suivant, Dieu entre personnellement dans l'histoire humaine par la naissance de Jésus, puis la propagation du christianisme dans l'Empire romain. Les Juifs rejettent leur Messie et se rebellent contre Rome. En l'an 70 de notre ère, les légions conduites par Titus détruisent Jérusalem. Les soldats romains placent leur enseigne dans le temple et offrent des sacrifices devant celle-ci, ce qui constitue une nouvelle fois pour les Juifs le summum de l'abomination et de la profanation. Ce quatrième empire se montre plus terrible que les précédents et dans l'avenir lointain, il portera le mal à son paroxysme. Il aura alors 10 cornes. Et une autre corne, que l'apôtre Paul appelle l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il s'agit de l'Antichrist, entrevu par Daniel et décrit en détail dans le livre de l'Apocalypse. Mais la statue de Daniel n'en reste pas à ces 4 empires. En effet, une petite pierre venue de nulle part vient la pulvériser. Elle représente le royaume de Dieu qui, dans une autre vision de Daniel, fait son apparition au temps de l'Empire romain. Quand, dans les années 30, Jésus a commencé son ministère, il a déclaré que, par sa présence, le royaume de Dieu était au milieu des Israélites. Il va sans dire que ceux qui rejettent le surnaturel et l'existence de Dieu, et les théologiens qui ont une attitude critique à l'égard des textes sacrés, n'acceptent pas que le livre de Daniel soit inspiré de Dieu, ni que les récits prodigieux qu'il contient ont vraiment eu lieu. Ils disent que c'est une fiction qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ, au temps de la famille des prêtres les Maccabées. Le livre de Daniel rapporte des miracles qui sont tellement extraordinaires et des prophéties tellement détaillées qu'ils sont inacceptables aux yeux des incroyants qui font tout ce qu'ils peuvent afin de discréditer les écrits de Daniel. Par exemple, pendant longtemps, on a dit que le roi Balthazar était une pure invention. Mais il n'y a pas très longtemps, on a découvert un écrit qui s'appelle « La chronique de Nabonide ». Qui a mis fin à ce vain discours? Mais comme les détracteurs sont de mauvaise foi, c'est le cas de le dire, ils contorsionnent leur théorie fumeuse dans tous les sens afin de rejeter l'authenticité du livre de Daniel. Il faut reconnaître que des prédictions aussi précises et détaillées que celles de ce livre sont un phénomène tout à fait unique dans les Écritures. Mais comme dit le prophète Jérémie, « Oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi ?» Le livre de Daniel présente l'Éternel comme un Dieu qui est absolument souverain sur les affaires des hommes. Il dirige l'histoire, les nations et les puissances de ce monde comme il l'entend. Daniel dit de Dieu, « Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. Il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et il a fait savoir au roi Nabucodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. C'est Dieu qui donne leur pouvoir à tous les rois et dirigeants, quels qu'ils soient, les bons et les mauvais, et qui leur ôte le pouvoir comme il veut. Il fixe la durée des empires, détermine l'étendue de leur puissance et leur assujettit des peuples pour un temps donné. Il limite aussi le pouvoir des despotes, les empêchant d'anéantir son peuple et son témoignage. Le sort du monde est le même que celui qui a frappé Babylone. Cet empire est né, il est devenu puissant, il a duré un temps, puis il a disparu. C'est le Très-Haut qui est en est maître absolu et il conduit tous les événements. Pour ce qui concerne la structure du livre de Daniel, il est constitué par un ensemble de récits qui se déroulent à la cour du roi de Babylone, suivi d'une série de visions et de prophéties. Il est rédigé en hébreu et en araméen, qui est la langue administrative officielle utilisée dans les empires babyloniens et perses. Le livre de Daniel couvre une période qui s'étend de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Daniel a plus de 80 ans quand il reçoit sa dernière vision. Le livre commence avec Nabucodonosor qui s'empare des ustensiles sacrés du temple de Jérusalem, mais qui les traite avec respect. Il finit avec Balthazar qui utilise ces ustensiles pour une beuverie. Cette profanation est la goutte d'eau proverbiale qui fait déborder le vase de la colère de Dieu, et cette nuit-là, Babylone tombe aux mains des Perses. Les 5 premiers chapitres du livre de Daniel concernent l'empire babylonien et les 4 premiers récits se situent sous le règne de Nabucodonosor. Après lui, Daniel reste à la cour de Babylone, mais on ne sait pas ce qu'il y fait. Sous la régence de Balthazar, qui est tué lors de la prise de sa capitale par les Mèdes alliés aux Perses, Daniel n'occupe plus de fonctions importantes. Cependant, 2 visions du livre datent de cette période. À partir du chapitre 6, le livre raconte l'histoire universelle qui fait suite à l'empire babylonien. Elle commence avec le roi Darius qui interdit de prier un dieu autre que lui. Puis le mal progresse jusqu'à l'annonce de la profanation du temple de Jérusalem. Puis jusqu'à la venue de l'Antéchrist qui se manifestera à la fin des temps mais qui sera détruit par le retour glorieux du Messie. Parce que Dieu fait l'histoire, il peut dire ce qui va arriver et parce qu'il s'implique dans les affaires des hommes. Il révèle l'avenir à ses prophètes. Quand le peuple choisi est faibli à sa mission d'obéir à son Dieu et à le faire connaître au monde, l'Éternel a su trouver des hommes fidèles de la trempe de Daniel et de ses 3 amis pour manifester sa gloire de manière éclatante aux yeux des païens. Bien que Daniel proclame la victoire finale du royaume de Dieu, elle ne suit pas le retour des Juifs de l'exil babylonien car de dures épreuves attendent encore le peuple choisi. Il faut d'abord que plusieurs empires se succèdent, puis 70 septaines d'années doivent s'écouler avant que s'accomplissent les prophéties messianiques. Durant cette période, Jérusalem et le Temple sont reconstruits, mais pendant de grandes détresses. Dieu révèle à Daniel qu'à la fin des temps, la fin dernière doit encore durer 1260 jours, puis 1290, puis 1335. Décidément, ça n'en finit pas de finir, et Daniel demande, « Quand donc viendra la fin de ces choses inouïes ?» Mais la fin viendra, et alors aura lieu la résurrection que Daniel annonce d'une manière très explicite, afin d'encourager les fidèles à l'Éternel. Jésus a repris à son compte le titre de Fils de l'homme, qu'on trouve dans l'une des visions de Daniel. Jésus est aussi celui qui, dans l'oracle des 70 septaines, reçoit l'onction qui est mise à mort pour l'expiation des péchés, qui conclut l'alliance avec un grand nombre et dont la mort rend inutile le système des sacrifices de l'ancienne alliance, appelé le sacrifice de l'offrande. Jésus est aussi l'amen par qui s'accomplissent vision et prophétie. À la veille de sa mort, Jésus a repris la partie de l'oracle de Daniel qui annonce une nouvelle destruction de Jérusalem et du Temple. Le livre de l'Apocalypse s'appuie beaucoup sur les visions et prophéties du livre de Daniel. L'apôtre Jean et Daniel décrivent tous deux Jésus comme celui qui est semblable à un fils d'homme qui vient sur les nuées. Dans l'Apocalypse, la vision du Christ ressuscité le décrit sous les traits d'un vieillard chargé de jours et d'un fils d'homme comme dans le livre de Daniel. Dans l'Apocalypse, la bête qui monte de la mer est un assemblage des quatre animaux de Daniel qu'il utilise pour décrire les quatre empires. Jean et Daniel décrivent un monde dans lequel un État totalitaire s'oppose au royaume de Dieu et persécute son peuple, mais tous deux annoncent également le triomphe de celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Quand le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple, Dieu mettra alors un terme à l'existence de tous les royaumes humains. Mais son royaume et son roi subsisteront éternellement.